RFI, 6h44, en temps universel. Un œil tout de suite sur les grands titres de l'info ce matin.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et à la une, une enquête interne et le mea culpa de l'armée israélienne sur les massacres commis par le Hamas le 7 octobre 2023, près de 1200 morts. L'armée reconnaît qu'elle n'a pas rempli sa mission de protection des civils israéliens. Près d'un an et demi plus tard et après l'offensive israélienne à Gaza qui a tué plus de 48 000 Palestiniens, Israël envoie au Caire une délégation. Alors que la première phase de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas se termine demain, les négociations pour la deuxième ne font que commencer. L'armée israélienne qui annonce dans le même temps se maintenir indéfiniment dans la zone tampon à la frontière libanaise. Elle devait pourtant se retirer du pays la semaine dernière dans le cadre de la trêve, cette fois avec le Hezbollah. Hier, les forces de l'État hébreu ont frappé un poste d'observation du groupe armé. À la une également la Turquie et cet appel historique du fondateur et chef du PKK, le parti des travailleurs kurdes. Abdullah Öcalan appelle à déposer les armes et à dissoudre le mouvement. Une lueur d'espoir qui pourrait mener à la résolution du conflit avec l'État turc, réagit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La Chine promet de prendre toutes les contre-mesures nécessaires, alors que les États-Unis vont relever leurs taxes sur les produits chinois dès mardi. Annonce de Donald Trump qui a indiqué aussi que les droits de douane promis au Canada et au Mexique entreraient également en vigueur le 4 mars. Et puis les habitants de la Réunion confinés avant l'arrivée du cyclone Garance. Ce matin, l'île française de l'océan Indien, placée en alerte violette, le plus haut niveau des rafales de plus de 200 km/h sont attendues. Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse africaine avec vous et à la une, la RDC, attentat meurtrier hier à Bukavu.
Deux explosions ont fait au moins 12 morts et 70 blessés hier lors d'un meeting de l'AFC M23 à Bukavu, annonce actualité.cd. Le site d'information congolais précise que le président Félix Tshisekedi a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et condamné un acte terroriste odieux qu'il attribue à une armée étrangère. Présente illégalement sur le sol congolais, sans mentionner toutefois explicitement le Rwanda ni l'AFC M23. L'AFC M23 qui, de son côté, rejette toute responsabilité et accuse Kinshasa d'être à l'origine de l'attaque, précise actualité.cd, selon lequel la nature des explosions n'a pas encore été déterminée. Afrique.com, de son côté, revient sur le moment de l'explosion. Le meeting a soudainement viré au drame. Vêtu d'une veste et d'une casquette noire, Corneille Nanga venait de descendre de la tribune annonçant la fin de son discours. À peine 2 minutes plus tard, une explosion retentit, provoquant une panique générale. En pleine confusion, poursuit Afrique.com, une seconde explosion détonne, amplifiant le chaos. Au sol, les corps tombent et très vite, le nombre des victimes s'accumule. L'incident, rappelle Afrique.com, survient dans un contexte de tensions politiques, militaires et ethniques dans l'est de la RDC.
À la une également, Catherine, l'interview de Macky Sall dans Jeune Afrique.
L'ex-président sénégalais, nous dit Jeune Afrique, s'exprime pour la première fois depuis la remise du rapport de la Cour des comptes qui accrédite la thèse d'une grave dérive de la gestion des finances publiques au cours de son second mandat. Il rejette toutes les accusations en bloc, dénonçant une cabale politique. Macky Sall assure ainsi que chaque année, la Cour des comptes a certifié les comptes financiers de l'État du Sénégal. C'est trop facile de revenir après et de dire que tout cela était faux. Tout cela est ridicule, ajoute l'ancien président, dénonçant également une cabale politique et regrettant qu'aucun membre de son gouvernement n'ait été consulté ni interrogé en vue de l'élaboration du rapport de la Cour des comptes. Quant à son avenir personnel, alors que les autorités sénégalaises ont évoqué de possibles poursuites judiciaires, Macky Sall assure qu'il n'a peur de rien. Ils peuvent poursuivre s'ils veulent, dit-il. J'ai choisi de vivre au Maroc comme mes prédécesseurs ont choisi librement d'aller en France. Rien ne m'empêche d'aller au Sénégal et je n'exclus pas d'y retourner.
Et au Maroc, justement, le roi Mohamed VI a lancé hier un appel à l'abstention du sacrifice de l'Aïd al-Adha.
Les Marocains soulagés, les éleveurs inquiets, titre l'hebdomadaire marocain Tel Quel, selon lequel l'appel royal tombe à point nommé pour une partie de la population excédée par la cherté de la vie. De son côté, le journal Le Matin parle d'un sursis stratégique qui répond à une réalité implacable. Sécheresse persistante, cheptel en recul et flambée des prix. Une pause est nécessaire, ajoute Le Matin, qui évoque une opportunité de refonder durablement le modèle ovin et son marché pour 2026. Le journal marocain parle donc d'une réalité implacable, estimant que le contexte actuel aurait rendu ce sacrifice extrêmement difficile pour nombre de familles marocaines. Le Maroc est un pays d'élevage, rappelle aussi Le Matin, mais son modèle actuel, majoritairement extensif, repose encore largement sur des pâturages naturels et une alimentation tributaire des caprices du climat. Conclusion du Matin, ce qui pouvait suffire par le passé ne répond plus aujourd'hui aux besoins d'une population croissante et à l'évolution des marchés agricoles mondiaux. Le journal liste toute une série de recommandations et prône notamment une évolution vers un élevage semi-intensif et intensif pour améliorer le rendement par hectare.
La revue de la presse africaine, Catherine Potet, merci beaucoup. 7h50 à Tunis. La Tunisie épinglée cette semaine par le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU qui dénonce la persécution des opposants dans le pays. La Tunisie qui a remis en liberté la semaine dernière 4 détenus politiques, un député, un ancien ministre, un journaliste et l'ancienne présidente de l'instance Vérité et Dignité en charge de la justice transitionnelle. Les défenseurs des droits de l'homme s'en sont réjouis, mais rappellent que plusieurs dizaines d'autres figures de l'opposition et de la société civile restent en prison, notamment pour avoir soutenu des migrants. Plusieurs ONG tunisiennes interpellent donc aujourd'hui le président Kais Saied, mais aussi la première ministre italienne Giorgia Meloni. Ramdan Benamor est le porte-parole du FTDES, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux. En ligne de Tunis, il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Ramdan Benamor, bonjour.
Bonjour.
La libération la semaine dernière de 4 opposants et militants pour les droits de l'homme, est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
Bon, bien sûr, toujours les libérations sont des bonnes nouvelles. La liberté est une chose qui nous satisfait, bien sûr, surtout pour des personnes qui sont détenues depuis des mois. Mais c'est pas un signe d'une ouverture de la part de la présidence de la République en Tunisie. Donc, ce sont des actions qui ont anticipé les réunions du Conseil des droits de l'homme, où la Tunisie sera aussi convoquée. Et donc, c'est une action qui a anticipé un peu les critiques. Mais voilà, donc hier, on n'était pas très satisfait de ce qui s'est passé parce que le tribunal de Tunis a refusé la libération aussi des personnes qui travaillent dans des ONG d'aide aux migrants.
Alors, il y a ces 4 figures tunisiennes qui viennent d'être libérées, mais combien d'autres restent en prison ?
Tout d'abord, il y a des dizaines de décideurs politiques qui sont encore en prison dans l'affaire de Complot. Et on a aussi des dizaines de décideurs ou bien des gens qui ont travaillé dans des ONG, surtout liés à la migration, qui sont encore en prison. Donc, ils ont dépassé aujourd'hui le 300 jours. Et on a malheureusement des dizaines de jeunes qui sont en prison, juste qu'ils ont critiqué la situation ou bien politique, ou bien économique, ou bien sociale par le fameux décret 54 qui est maintenant le plus utilisé pour faire taire toutes les voix qui critiquent la situation.
Alors vous parlez du décret 54, c'est ce décret présidentiel de septembre 2022 qui vise officiellement à lutter contre les fake news, les fausses informations et qui est à l'origine des poursuites judiciaires actuelles contre quelques 400 personnes. Parmi elles, il y a 2 figures de la société civile, l'ancien conseiller du haut commissaire aux réfugiés Antonio Guterres, il s'agit bien sûr du grand diplomate Mustapha Djemali, et puis la directrice de Terre d'Asile Tunisie, Chérifa Riahi, qui a été arrêtée l'année dernière 2 mois après son accouchement. Pourquoi cet acharnement contre ces personnalités ?
Donc pour Kais Saied, quand il a fait son discours raciste le 21 février 2023 envers les migrants, donc il a parlé d'un complot contre l'État tunisien pour changer la composition démocratique. Alors les organismes de l'État, ils ont mobilisé pour prouver ces propos de Kais Saied, pour dire que voilà qu'il y a un vrai complot, surtout au niveau de la situation avec les migrants. Et l'État surtout a été mobilisé après une réunion du Conseil de sécurité nationale, donc en mai 2023. 2024, ils ont visé surtout les ONG qui travaillent pour soutenir les migrants. Donc, ils ont visé Mustafa Jamel et Abdelazar Lekrimi du Conseil tunisien de réfugiés, Iyad Boussel, Mishri Fariahi, Mohamed Jou'o du Terre d'asile Tunisie, Saadia Msbah de l'association Amnemti et les autres. Donc, à travers ces propos, Qais Saïd dit voilà qu'il y a un vrai plan et que ce plan-là vient des gens qui ont des relations avec l'étranger. Donc, quand on parle de Mustafa Jamel, par exemple, aux terres d'asile, donc ce sont pour Qais Saïd les stéréotypes qui nourrissent sa narration. Et aussi pour Qais Saïd, ce sont les gens qui sont impliqués d'une manière ou d'autre dans cette complot.
Et pensez-vous que la mobilisation tunisienne et internationale pour ces personnalités, comme Mustafa Jamali par exemple, est-ce qu'elle peut convaincre les autorités de décider une mesure de clémence?
Tout d'abord, il faut mentionner qu'il y a une mobilisation nationale en Tunisie malgré les climats de peur. Donc il y a toujours des associations, des militants, des militantes qui essaient de se mobiliser, de faire des actions pour faire le pression, pour demander et exiger la libération des détenus, quel que soit politique ou bien des détenus, surtout de la société civile. Malheureusement, sur le plan international, pour nous, on a déjà un Saint-Denis sur la position de l'Union européenne, parce qu'au moment où Qais Saïd il fait la répression contre les migrants et la société civile, on a vu beaucoup de dirigeants européens qui viennent en Tunisie, qui saluent la Tunisie des efforts menés pour la lutte contre la migration non réglementaire. Donc il y a une manière de complice aussi de la part de beaucoup de dirigeants européens.
Et quand vous parlez de la complicité de certains dirigeants européens, à qui pensez-vous?
Bon, bien sûr, toujours on pense donc à Giorgia Meloni qui a créé cette alliance. Et donc on a vu ce qu'a fait Giorgia Meloni, ce qu'a fait le ministère des Affaires étrangères italien, qui est maintenant le porte-parole de Qais Saïd dans les instances, pas seulement européennes, mais les instances internationales.
Ramdan Benhamor, je vous remercie.
Le porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, invité RFI Matin de Christophe Boisbouvier. Bientôt 7h en temps universel. Avant le journal sur RFI, votre sourire du vendredi, la parlotte de Charlotte avec vous, Charlotte Ntamak. Vous nous dites ce matin que pour éteindre un feu, tout le monde peut être sollicité comme sapeur-pompier.
Oui, nous connaissons tous les sapeurs-pompiers, ces soldats du feu qui interviennent en cas d'incendie ou de tout autre danger. Mais il arrive que, même sans être du métier, on le devienne de façon involontaire. Non pas en prêtant main forte en cas d'incendie, mais parce qu'un tiers vous appelle en sapeur-pompier.
Tu m'as giflé, non? Attends, je pars appeler mon grand frère.
Lorsque le sapeur-pompier intervient, ce n'est pas toujours pour éteindre le feu, mais parfois pour rajouter de l'huile sur le feu.
C'est toi qui gifle mon petit frère. Le voici, gifle-le encore, comme tu crois que tu es fort. Si tu es garçon, tente même seulement de le frôler.
Mais on le sait, à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler.
Tu pars provoquer, on te frappe. Tu viens m'appeler, il me tape aussi. Au lieu d'entrer dans la bagarre, tu ris. Tu veux que moi-même je te tape aussi?
Le sapeur-pompier intervient pour éteindre un feu qui a été allumé par quelqu'un qui a pourtant été prévenu du danger des flammes.
Je dis, est-ce que tu sais que le gars avec qui tu traites là, c'est un malhonnête?
Ah, tu maîtrises la situation, hein? Ok. Mako, le type avec qui tu sors là est marié avec femme et enfant, hein? Ah, son mari est son mari quand ils sont chez eux, hein? Ok. Lorsque l'étincelle prend feu, vous voilà sollicité pour jouer les soldats du feu.
Man, n'est-ce pas le type là m'a frappé 300 000? Pardon, introduis-moi chez ton grand frère commissaire de police.
Mako, c'est comment avec les blessures partout et les habits déchirés? Les bandits t'ont agressé?
Mako, quel bandit? N'est-ce pas c'est la femme du type là? Elle m'agresse que, oh, j'ai volé son mari, comme si c'est moi qui l'ai appelé me draguer. Mako, pardon, va alors la supplier qu'elle te remette mes chaussures qu'elle a confisquées, parce qu'elle dit que c'est son mari qui a acheté ça.
Lorsqu'un incendie est signalé, le premier réflexe est de composer le numéro d'urgence des pompiers. Et souvent, ce numéro commence par l'indicatif du pays juste avant votre numéro, qui devient un numéro d'urgence encore plus efficace que le 18.
Man, devine qui m'appelle. Mon grand frère, je ne comprends pas les gens de Mbeng.
Je suis là. Il traite directement avec des gens ici au pays. Maintenant qu'on l'a frappé, il m'envoie faire les problèmes. Jusqu'à, il dit que même s'il faut combien, il envoie.
Donc, il a même souvent l'argent. Hein.
Le sapeur-pompier lui-même est souvent menacé par l'ampleur des flammes. Hein.
Mon ami, j'ai traité quoi avec toi? Dis donc, amène-moi où tu veux.
Jouer le sapeur-pompier, c'est faire intrusion dans un feu qui ne vous regarde pas. À vendredi.
À vendredi, Charlotte. Et merci, on vous retrouve à l'onglet La Parlotte de Charlotte de notre site RFI.fr. Et bienvenue sur la Radio du Monde, si vous nous rejoignez, le journal dans moins de 2 minutes.
Les dessous de l'infox, Sophie Malibaud.
Depuis le déclenchement de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, un discours anti-néocolonialiste ressurgit, de façon sélective, dans la bouche des propagandistes et des plus hauts responsables russes. Avec le chercheur Maxime Audinet de l'IRSEM, nous évoquons la façon dont ce récit se propage à des fins stratégiques.
Les dessous de l'infox, avec Sophie Malibaud, tout à l'heure à partir de 17h30 TU sur RFI.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Une émission à Cotonou, au Bénin, pays en quête d'industrialisation. Le gouvernement, les entreprises et les investisseurs multiplient les initiatives pour transformer localement les ressources nationales comme le coton ou la noix de cajou pour devenir aussi un carrefour commercial en Afrique de l'Ouest.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Ce dimanche, sur RFI, idée, Pierre-Edouard Deldic.
L'insurrection des particularités, c'est le titre du dernier livre en date de la philosophe Chantal Delsol. Le remplacement de la lutte des classes par le conflit des identités traduit le nombrilisme présent, écrit-elle. Nous en parlons dans une nouvelle conversation.
Pierre-Edouard Deldic avec idée, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI et à tout moment sur RFI.fr ou sur votre application de podcast.